Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bousouma à la présentation.
Plus d'un million de Congolais actuellement réfugiés dans divers pays à cause des conflits armés dans l'Est de la RDC et le pays accueille environ 500 000 réfugiés externes, chiffre livré par le ACR à l'occasion du 20 juin, journée mondiale des réfugiés, le représentant par intérim du ACR en RDC est l'invité de ce journal. 82 organisations de la société civile plaident pour la transparence dans la gestion des fonds issus de l'exploitation des minerais de cassitérite de Bissié dans le Walika Léonore Kivu. Ceci intervient après la signature d'un nouveau cahier des charges entre la société Alpha Mine et les communautés des Wanyanga, ce alors que l'impact reste faible environ 9 ans après la signature du premier cahier des charges. Et puis, le gouvernement et la MONUSCO adoptent une feuille de route de collaboration pour mieux protéger les civils et faciliter la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. C'est à l'issue d'un atelier clôturé mercredi à Beni, organisé par la mission onusienne en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes bien le 20 juin. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Plus d'un million de Congolais se retrouvent actuellement réfugiés dans divers pays à la suite des divers conflits armés qui prévalent actuellement dans le pays. La RDC accueille en revanche environ 500 000 réfugiés externes. Au Nord Kivu, la tripartite Rwanda-RDC-ACR, ce cadre de collaboration qui traite la question du rapatriement des réfugiés de ces deux pays respectifs continue avec ses activités. Les discussions se poursuivent et une réunion des parties prenantes est en préparation pour traiter de toutes les questions liées au rapatriement. C'est ce qu'indique le représentant par intérim du ACR, Pierre Atchom, est au micro de Sifa Maguru.
Le gouvernement congolais a sollicité une réunion de la commission tripartite. L'OHR a été saisi dans ce sens-là. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions nous retrouver. Je pourrais la prochaine tenue de la réunion qui aura lieu soit à Genève, soit à Addis Abeba, soit...
Est-ce que les rapatriements des routines continuent?
Le rapatriement continue. Nous avons fait le rapatriement des Congolais parce qu'on a on a deux types de rapatriement. On a le rapatriement in, c'est-à-dire les Congolais qui sont à l'extérieur qui reviennent. Au cours de cette année, il y a environ 177 personnes qui sont revenues de l'Afrique du Sud, qui sont revenues de la Namibie, qui sont revenues de Swazini, qui sont revenues du Burundi. Alors donc, les Congolais rentrent chez eux, travaillent avec la Commission nationale pour les réfugiés pour faire revenir. Nous avons également le rapatriement out, c'est-à-dire que le rapatriement des réfugiés qui se trouvent au Congo, qui rentrent chez eux. Et donc, nous sommes à environ, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 4000 personnes qui sont rentrées, et donc essentiellement des réfugiés congolais, des réfugiés burundais et puis des réfugiés rwandais.
Renforcer les synergies pour mieux protéger les civils et faciliter la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, c'est l'objectif d'un atelier de 3 jours qui s'est clôturé mercredi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Organisé par la mission onusienne en RDC à travers sa section des affaires civiles, la rencontre a réuni près de 90 participants venus de Beni, Butembo et Lubero. Parmi eux, des membres du gouvernement provincial du Nord Kivu, des chefs coutumiers, des humanitaires et des représentants de la société civile. Elle a abouti à une feuille de route commune articulée autour de 5 axes majeurs. Martial Papi Mukeba nous en parle.
La feuille de route prévoit un cadre de concertation permanent entre la MONUSCO et les autorités, appuyé par une communication conjointe et la participation des structures locales. Contre les groupes armés, elle propose une cartographie des acteurs, des campagnes de désarmement, la vulgarisation de la loi sur la réinsertion, des opérations coordonnées et des centres de déradicalisation, notamment pour les ADF. Sur le plan sécuritaire, elle mise sur la protection des zones contrôlées, les renforcements des autorités locales et la relance des plans et comités locaux de sécurité. La cohésion sociale passe par des actions de proximité, l'engagement des jeunes et la création d'ambassadeurs de la paix. En fait, elle prévoit un soutien humanitaire et une relance du développement. Sécurisation des espaces, facilité fiscale pour les ONG, appui logistique et plaidoyer pour un financement durable. Certaines actions seront immédiates, d'autres à moyen ou long terme, mises en œuvre conjointement par la MONUSCO, les autorités provinciales et les partenaires. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, au Nord Kivu, 82 organisations de la société civile plaident pour la transparence dans la gestion des fonds issus de l'exploitation des minerais de cassitérite de Bissié dans le territoire de Walikale. Elles s'expriment dans une correspondance adressée mercredi aux autorités congolaises et à la société Alpha Mine Bissié Mining qui exploite le site. L'action intervient environ 6 jours après la signature d'un nouveau cahier des charges entre la société et les communautés locales du secteur des Wanyanga de Walikale. Pour le coordonnateur d'une de ces organisations, près de 9 ans après la signature du premier cahier des charges avec cette société américaine, l'impact sur le plan de développement local reste faible. On écoute Vicar Batundi du foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes.
La motivation pour nous, c'est que il est difficile de faire la comparaison entre les milliards de dollars que les gens amassent à Walikale et les conditions de vie de la population. Et nous nous demandons où va l'argent. Nous sommes partis de la période de 2016 jusqu'en 2024. Nous avons totalisé plus de 30 millions qui se sont volatilisés. Et donc, on se pose la question sur l'impact. Et donc, comme le premier cahier de charges a expiré en février et que les règlements miniers exigent à ce que l'on puisse évaluer d'abord le cahier de charges qui a expiré avant d'élaborer un autre, chose qui n'a pas été faite, nous nous sommes dit on doit attirer l'attention des autorités et des actionnaires de la société. D'abord, il faut qu'il y ait une évaluation sincère et un audit sérieux pour la traçabilité des fonds alloués au projet communautaire, parce que 30 millions c'est beaucoup. Nous devons connaître où va l'argent, à qui ça profite et pourquoi la misère dans la zone.
Rappelons que selon le protocole d'accord sur l'exploitation de Bissié, 0,3% du chiffre d'affaires de la société Alpha Mine devrait être alloué au développement local dans le secteur des Wanyanga, promouvant des projets intégrateurs, notamment des routes, la modernisation des écoles, des structures sanitaires et le développement de l'emploi. Bâtir l'avenir ensemble, c'est l'intitulé de la nouvelle campagne des relations publiques lancée mercredi par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Elle vise à communiquer de manière claire et honnête l'étendue et la profondeur de l'engagement des États-Unis en RDC. Lors de cette campagne, il sera aussi question de mettre en lumière les étapes clés de la coopération existant entre les deux pays. Des précisions avec Plotin Mbenga.
La RDC bénéficie de plusieurs programmes dans le cadre de cette coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture, où 607 000 ménages ont vu leurs activités être améliorées. Le domaine de la santé n'est pas en reste, car les États-Unis ont financé depuis 2003 le traitement de plus de 180 000 Congolais souffrant du VIH-SIDA. Ces partenariats conclus depuis l'accession du pays à l'indépendance portent également des fruits dans l'entrepreneuriat où l'Académie des femmes entrepreneurs, un établissement des droits américains, dispense des formations en faveur des ressortissants de la RDC pour leur permettre de développer leur business. Dans les domaines sanitaires, les investissements américains s'élèvent à 900 millions de dollars, dont 600 millions ont été affectés à la lutte contre le paludisme, couvrant ainsi 40% de la population de la RDC et plusieurs millions pour la lutte contre les épidémies d'Ebola et de Mpox. S'agissant de la croissance économique, le pays de l'oncle Sam a investi 4 milliards de dollars dans les infrastructures du corridor de Lobito, des chaînes de valeur en minerais stratégiques et la lutte contre la pauvreté. À travers cette nouvelle campagne et la réouverture du centre américain à Kinshasa, les USA réaffirme leur engagement indéfectible envers une RDC forte, souveraine et prospère.
Par ailleurs, sachez que les États-Unis apportent leur soutien à la RDC dans la lutte contre le monkeypox. Depuis le mois de février de cette année, les Américains ont donné des vaccins et du matériel au centre de traitement Mpox de la clinique chinoise de Kinshasa. Lors de sa visite mercredi dans ce centre, l'ambassadeur des États-Unis en RDC s'est dit satisfaite des avancées réalisées dans la prise en charge des malades de monkeypox. Détail avec Stanislas Diomi.
Dans le cadre du soutien du gouvernement américain à la réponse contre le Mpox, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tomlin, après avoir visité le malade souffrant de Mpox au centre de traitement Mpox de la clinique chinoise, se dit satisfaite de la qualité de soins et l'assistance de malades souffrant de Mpox dans ce centre.
Voilà ce que c'est impressionnant par rapport à cette unité, c'est la qualité des soins, l'assistance pour les personnes les plus affectées. Et félicitations pour tout ce que vous faites, même dans les conditions assez difficiles, assez compliquées. Mais je vois que vous avez un taux de réussite assez élevé.
Le docteur Chilumbai Chimanga-José, responsable de la prise en charge de Mpox, donne les statistiques de cas de Mpox depuis la mise en place en février de ce centre de traitement.
Depuis que le centre était ouvert, nous avons reçu déjà plus de 186 cas. Et dans les 186 cas, nous avons eu déjà un taux élevé de gens qui ont été guéris, plus de 158 guéris, et puis un taux faible de décès.
Docteur Chilumbai Chimanga-José sensibilise la communauté sur la présence de cette maladie qui tue. En cas d'éruption cutanée, il conseille aux malades d'aller dans un centre de traitement Mpox le plus proche.
La Cour constitutionnelle convoque une plénière élective ce vendredi 20 juin. Les juges de la Cour vont renouveler la présidence de cette juridiction du pays à l'issue d'un vote à huis clos. Dans une correspondance adressée au président de la République, la Cour annonce la tenue de cette élection conformément à l'article 9 de sa loi organique du 15 octobre 2013. Jeff Ngoy évoque la procédure en cette matière.
Selon la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour, ainsi que les articles 12 à 15 de son règlement, le président de la Cour constitutionnelle exerce un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est élu par ses pairs, comme le prévoit l'ordonnance présidentielle du 22 juin 2022. Succédant à Dieudonné Kaluba, à cette date, Dieudonné Kamuleta, président sortant de la Cour, est éligible pour un second mandat. La loi lui permet de se présenter à sa propre succession. Loin d'être une simple formalité, cette élection consacre l'équilibre du pouvoir judiciaire et la crédibilité de l'état de droit. Car la Cour constitutionnelle ne jouant pas seulement le rôle de protecteur et défenseur de la Constitution, elle est également juge des contentieux électoraux, de la validation des candidatures à la proclamation des résultats. Elle s'assure aussi de la conformité constitutionnelle des textes, des lois et règlements.
Dans l'actualité aussi, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a déposé sa démission auprès du chef de l'État, ce 3 jours après l'autorisation des poursuites décidées par l'Assemblée nationale. Dans sa lettre, il dénonce un complot politique conçu à Kigali et soutenu par des compatriotes visant à freiner sa lutte contre l'AFC M23 et à bloquer les réformes en cours. Il s'est néanmoins réjoui d'avoir mené des réformes courageuses dans le secteur de la justice congolaise. D'autres détails avec Plotin Yambenga.
Dans sa lettre, Constant Mutamba affirme n'avoir pris aucun dollar de l'État. Il promet de ne pas abandonner les combats pour une justice juste et équitable pour tous, débarrassée de toutes les tares actuelles, notamment pour des règlements des comptes politiques. Accusé de détournement des fonds publics, l'ex-ministre Mutamba a défendu son bilan évoquant des réformes engagées dans ces secteurs. Ces réformes audacieuses, explique-t-il, menées après de nombreux sacrifices et malgré la résistance des conservateurs hostiles au changement, ont permis d'une part de réhabiliter des milliers de nos compatriotes et d'autre part, elles ont contribué à protéger l'État et ses démembrements de la prédation de leur patrimoine par des réseaux mafieux. Dans ces cadres, l'ancien garde des Sceaux a énuméré plusieurs actions menées pour sécuriser les investisseurs et stabiliser le climat des affaires. Il s'agit entre autres de la redynamisation du guichet unique des créations d'entreprises, permettant désormais de créer une entreprise en 2 jours, de l'insaisissabilité des biens des entreprises du portefeuille de l'État et de la création d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution de la justice. Cette démission intervient après que l'Assemblée nationale a autorisé au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre lui.
Autre nouvelle, à Kinshasa, le génie militaire poursuit les travaux de construction des canaux de drainage des eaux de pluie sur l'avenue du tourisme à Plenzela Mai dans la commune d'Ungaliema. Ces voies d'évacuation des eaux partent du camp Tchatchi vers le fleuve Congo en passant par la partie qui enregistre souvent les glissements de terre après des fortes pluies. C'est un reportage de Élise Kavira.
La pluie torrentielle du vendredi 13 juin dernier a rendu l'avenue du tourisme impraticable sur une longue distance, soit environ 100 mètres. Cette route était presque coupée en deux. Les maisons construites en tôle le long de cette artère n'ont pas non plus résisté. Madame Mwamvita Elodie, qui est parmi ceux qui ont perdu leur logis, explique.
Il y a un caniveau dans le camp Tchatchi, celui sur lequel le génie militaire travaille. Ce caniveau aide à drainer beaucoup d'eau. Mais nous sommes étonnés de voir que ceux qui font ces travaux ont enlevé le mur et le sac que la population avait mis en place. C'est ce qui a conduit à cette situation.
Pour sa part, le lieutenant Godard Ditomene, superviseur des travaux, parle de ce qui se fait sur le terrain.
Le désordre qui s'effectue sur l'avenir du tourisme vient de l'intérieur du camp. Raison pour laquelle nous sommes en train de construire les ouvrages de drainage, recueillir les eaux déjà en amont, afin de les drainer. Les collecteurs ici nous mènent déjà vers notre deuxième exutoire. Dans l'ensemble, nous construisons un réseau de 1,5 km. Selon notre planification, ça va nous prendre tout au plus 4 mois.
Contacté à ce sujet, Jules Kaboula, de la cellule de communication de l'Agence congolaise des grands travaux, rassure que le mur de soutènement prévu dans le plan de l'ACGT sera érigé comme prévu, parallèlement aux travaux en cours.
Actualité internationale.
34 morts et 14 blessés parmi les soldats nigériens, bilan d'une attaque survenue hier jeudi à Bani Bangou, à quelques 250 km de Niamey, la capitale du Niger. C'est ce que rapporte le ministère de la Défense du Niger. Des sources sécuritaires affirment que le commandant en chef de la position militaire de Bani Bangou a été tué dans les affrontements. Les assaillants ont réussi à attaquer la localité, pourtant très sécurisée, avant de se retirer en direction de la frontière malienne toute proche.
L'invité.
Journée mondiale des réfugiés, c'est aujourd'hui 20 juin. Plus d'un million de Congolais se retrouvent actuellement réfugiés dans divers pays à la suite des divers conflits armés qui prévalent actuellement dans le pays. La RDC accueille en revanche environ 500 000 réfugiés externes. À cette occasion, le représentant ad intérim du ACR en RDC adresse un message de solidarité au regard des conditions difficiles dans lesquelles se trouvent ces personnes réfugiées. Pierre Atchom est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur le représentant Pierre Atchom, bonjour.
Bonjour madame.
Bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci beaucoup.
Le 20 juin de chaque année marque la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés. Quel état des lieux faites-vous de la situation des personnes réfugiées en RDC et de façon particulière à l'Est?
La Journée mondiale des réfugiés qui va se célébrer le 20 juin est la 25e journée mondiale célébrée dans le monde. Le thème de cette journée est la solidarité envers les personnes déplacées. Placer des forces, en particulier les réfugiés. Je dois dire que de plus en plus, on constate des déplacements de forces, des populations qui bougent au regard du conflit au Soudan, à l'est de la RDC et dans un certain nombre de pays. Donc, ça fait en sorte que ces déplacements-là apportent un poids sur le dos de l'État qui est généralement soutenu par le HCR.
Quels sont les chiffres que la population peut retenir actuellement?
La RDC produit des réfugiés, mais la RDC aussi reçoit des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons environ 1 100 000 réfugiés congolais qui se retrouvent dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, et un petit nombre en Centrafrique et ailleurs, Malawi, Zambie. Mais aussi, la RDC reçoit également les réfugiés. Et donc, nous avons environ 518 000 réfugiés ici et demandeurs d'asile, ici au niveau de la RDC, constitués notamment des réfugiés rwandais, des réfugiés centrafricains, des réfugiés sud-soudanais et également des réfugiés burundais qui sont les plus nombreux.
Monsieur le représentant, comme vous le savez, la crise sécuritaire, notamment la guerre qui sévit dans les deux Kivu, dans l'Ituri, a créé des nouveaux déplacés internes et des réfugiés. Quelle réponse apportez-vous à cette crise sur le plan de la gestion des réfugiés et déplacés?
La plupart ne sont pas dans les camps de réfugiés, parce qu'à l'Est, il n'y a pas de camps de réfugiés. Donc, la plupart sont dans les localités périphériques, et notamment à Goma ou à Bukavu. Donc, nous avons des équipes sur le terrain qui travaillent. En ce qui concerne les déplacés internes, bon, on fonctionne sur la base de ce que nous appelons techniquement les clusters, sous la coordination du coordinateur humanitaire, et le HCR en particulier a trois clusters. Un cluster qui est lié à la protection, c'est-à-dire au monitoring pour s'assurer que les droits des déplacés sont respectés, mais aussi un cluster qui s'occupe des abris, donc, et un dernier cluster qui s'occupe de la gestion des sites. Donc, nous travaillons, bien entendu, avec pour apporter un soutien des autorités. Alors, les autres agences ont également leur cluster en ce qui concerne les déplacés internes. Mais pour les réfugiés, nous couvrons pratiquement tout, bien sûr, en soutien à l'État congolais.
Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Parce que nous savons que la question, par exemple, de la sécurité des personnes réfugiées qui se trouvent dans la partie Est et les préoccupe beaucoup, mais aussi l'aspect survie, la résilience. Comment vous faites?
Comme toute institution, dans le contexte actuel,
de la morosité des financements, et c'est un peu difficile. Nous faisons le peu que nous pouvons. Nous apportons également un appui en termes de logement. Et nous nous assurons également que les réfugiés puissent avoir des documents qui prouvent leur statut de réfugié. Et ces documents sont délivrés par l'État à travers la Commission nationale pour les réfugiés. Mais il faut comprendre que la situation actuelle, c'est une situation qui impacte l'UHR comme toutes les agences. Au moment où je vous parle, le gel du financement américain, plus la baisse de la donation des bailleurs de fonds, fait en sorte que le HR au niveau de la RDC a été véritablement impacté. En termes du personnel, le HR va se retrouver en train de réduire la moitié de son personnel au cours de cette année. Nous allons fermer 4 bureaux. Le bureau de Baraka, de Chikapa, le bureau de Yakuma et le bureau d'Aru qui va être redéployé au niveau de Bounia. Donc vous comprenez que dans ces conditions, il est vraiment difficile pour nous, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer également à mobiliser les ressources, à soutenir l'État congolais pour pouvoir continuer à apporter l'assistance et la protection aux réfugiés. Nous restons dans le pays, nous serons là, nous allons travailler aux côtés de l'État.
Monsieur Pierre Atchoum, merci beaucoup.
Je vous remercie, Madame Sifa.
Le représentant par intérim du ACR répondait aux questions de Sifa Maguru. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo à la mise en onde d'Eps Vita. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.